Et voici la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Rendez l'argent, voilà un slogan électoral qui ne nous est pas complètement inconnu en France et qui a plutôt réussi au nouveau président du Salvador.
Oui, ce nouveau président, il s'appelle Nayib Bukele, il a 37 ans et il vient de proclamer sa victoire dès le premier tour de la présidentielle qui se déroulait hier donc au Salvador. Et de lui, en lisant les nombreux articles que lui consacre le quotidien salvadorien El Mundo, on sait notamment qu'avant de devenir candidat anti-système, notre homme a fait fortune dans la publicité. Ce n'est donc pas un hasard si c'est avec un slogan tout simple mais très efficace qu'il a rythmé la campagne ces derniers mois au Salvador. Devuelvan lo robado, rendez ce que vous avez volé pendant près de 30 ans au pouvoir. C'est ça la petite musique qui a accompagné tous les meetings de Nayib Bukele jusqu'à la victoire donc ce dimanche. Devuelvan lo robado, c'est aussi décliné en mot dièse, en hashtag sur les réseaux sociaux pendant toute cette campagne présidentielle au Salvador. Et ça a fait fureur auprès des jeunes de ce petit pays d'Amérique centrale chez qui on craignait, il faut bien le dire, une abstention massive. Alors El País confirme le talent de l'ex-maire de la capitale du Salvador pour le marketing politique. Il a tout investi dans ce créneau tendance de pourfendeur des deux partis droite et gauche qui se partageaient le pouvoir depuis la fin de la guerre civile il y a près de 30 ans. Au moment de proclamer sa victoire, tout à l'heure d'ailleurs, Nayib Bukele a déclaré ceci: nous écrivons une nouvelle page de l'histoire de notre pays, nous refermons la page de l'après-guerre. Et c'est peu dire, comme le fait El País, que cette après-guerre au Salvador a vu la politique du pays s'engluer dans les scandales de corruption avec pas moins de 3 anciens présidents poursuivis en justice et ce système des partis issus de la guerre en état avancé de putréfaction. La formule est là encore d'El País America. Que vous dire d'autre sur ce nouveau président attendu comme le sauveur qu'il prétend être? Peut-être qu'il est né salvadorien mais d'un père palestinien et musulman, qu'il a réussi à se faire élire sans affirmer aucune religion dans un pays sous forte influence catholique et évangélique. La question à présent posée par El País comme par la chaîne de télévision El Salvador, c'est de savoir ce qu'il restera du personnage et de ses effets médiatiques quand il faudra vraiment lutter contre la corruption et le poids mortifère des gangs criminels au Salvador. Question enfin sur ce que cet effondrement du vieil équilibre salvadorien va entraîner dans le paysage politique latino-américain. Le gouvernement socialiste du Salvador balayé, c'est en particulier encore un allié de moins pour le vénézuélien Nicolas Maduro.
Et justement, à propos du Venezuela, Camille, le New York Times s'interroge sur la stratégie de Juan Guaido.
Oui, l'envoyé spécial à Caracas du quotidien new-yorkais a suivi justement le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, président autoproclamé, dans le tumulte de sa vie. C'était hier en pleine journée de mobilisation de ses partisans. Un Guaido ultra sollicité par les Vénézuéliens qu'il rencontre comme par les chefs d'État du monde entier qui cherchent à le joindre sur son téléphone portable. Mais un homme, nous dit-on, qui reste placide en apparence et qui reconnaît que les choses ne vont sans doute pas aussi vite qu'il l'avait prévu dans sa stratégie pour faire chuter le dictateur Maduro. Une stratégie qui conduit le Venezuela à un carrefour particulièrement périlleux. Ça, c'est le titre de l'article du New York Times. Et ça résume bien les doutes qui se font jour autour du pilote donc du véhicule. Juan Guaido décrit comme sans doute un peu inconscient, un peu amateur dans l'immense mission qu'il s'est assignée, mais apparemment toujours aussi déterminé. Il le sait, ce n'est pas de Caracas que viendra son salut, si salut il doit y avoir. Ce sera de l'extérieur, de la reconnaissance officielle que devraient lui accorder dès ce lundi les pays de l'Union européenne et aussi de l'aide humanitaire qui est envoyée par ses alliés étrangers et qui commence à arriver à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. On suit d'ailleurs l'acheminement de cette aide humanitaire sur le site du journal La Opinion dans la ville de Cúcuta du côté colombien de la frontière. Les colis d'aide alimentaire sont estampillés USAID du nom de l'agence d'aide au développement américaine, Croix-Rouge internationale ou encore Congrès des États-Unis, l'aide humanitaire comme arme politique donc actionnée par Donald Trump et son ami le président colombien Iván Duque pour fragiliser un peu plus encore le régime de Nicolas Maduro auprès de sa population affamée.
Et enfin, on termine par la Chine où un système de reconnaissance faciale et donc de surveillance généralisée de la population se retrouve critiqué et pas forcément par ceux que l'on attendait, Camille.
Ouais, c'est un étonnant article que vous lirez dans le South China Morning Post. Il nous apprend que le logiciel qui permet aux caméras de surveillance déployées de reconnaître les visages des personnes filmées, de les mettre en relation avec toutes les données personnelles disponibles sur ces personnes, ce système d'intelligence artificielle qui a été baptisé Confiance Zéro a été déployé dans 30 régions et grandes villes de Chine officiellement pour traquer les fonctionnaires corrompus. Il marche tellement bien, ce système, nous dit le journaliste Stephen Chen, qu'il a déjà permis de confondre près de 9000 ripoux dans les administrations chinoises. Forcément, ça met une pression énorme sur les quelques 50 millions de fonctionnaires qui se retrouvent scrutés en continu. Le South China Morning Post rapporte notamment des cas de suicide dans la police. Et le journal se demande s'il ne serait pas temps d'appuyer sur le bouton off face à l'effrayante efficacité du système. Une invitation au sabotage que l'on retrouvera entre les lignes de cette interview donnée à Bloomberg par l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Le chercheur canadien Joshua Bengio a été l'un des premiers à travailler sur le deep learning, cette manière dont on apprend aux ordinateurs à apprendre par eux-mêmes. La manière dont sa création lui échappe aujourd'hui et dont elle est utilisée par le régime chinois pour surveiller sa population, pour lui dicter sa conduite et ses pensées, tout cela, c'est clairement, dit Bengio, le pire des scénarios qui devient réalité, le scénario Big Brother, tout droit sorti de 1984.
Merci Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.